Donc la table ronde suivante s'intéresse plus particulièrement au plaidoyer. Elle s'intitule « Défense et illustration de la bibliothèque ». Et donc, pendant que les différents intervenants s'installent, je vais les présenter en quelques mots. Donc, je ne sais pas si Estelle Gentillot est arrivée. Alors, je ne la vois pas dans la salle. Alors, du coup... Du coup, il nous manque qu'une intervenante sur trois. Oui. Oui. D'accord.
Qui représentait un échelon important, puisqu'il s'agissait d'une élue.
Alors, du coup, je vais d'abord présenter les personnes présentes. Donc Julie vient de partir pour essayer de joindre Estelle Gentillot pour voir si elle s'approche de la bibliothèque. Donc notre modérateur ce matin est Christophe Evans, donc, qui est sociologue et responsable du service études et recherches de la Bibliothèque publique d'information, donc du BPI, de la BPI. Donc il est spécialiste de la sociologie de la lecture et de la sociologie des publics, hein, des bibliothèques. Et donc, il a aussi coordonné des ouvrages collectifs. Ma collègue qui s'est installée à côté de Christophe est Elisabeth Collin-Canto, qui se présente aujourd'hui sous la casquette de présidente de Cyclo Biblio, qu'elle va nous présenter.
Ah oui, sous le gilet.
Tout équipé. Donc, gilet bleu aujourd'hui. Elisabeth, elle a traversé 10 bibliothèques en 20 ans, des bibliothèques aux profils les plus divers, dans 5 régions différentes, donc à la vue du pays. Actuellement, elle travaille pour les bibliothèques de Paris-Descartes, donc ils vont bientôt devenir Université de Paris. Elle est responsable de la BU STAPS et du service transverse de l'accueil des publics pour son réseau, en fait, qui compte 12 bibliothèques. Donc on voit là le croisement entre le sport et les bibliothèques. Et donc, voilà, un de ses plaisirs, de ses grands plaisirs, c'est discuter bibliothèque en pédalant avec des collègues. Donc vous allez découvrir... cela. Alors, Cyclobiblio, on connaît un petit peu à Bordeaux, puisque vous étiez passé en 2017, je crois, 2016, à Bordeaux. Cette initiative permet aussi le partage d'expériences et de faire découvrir à des élus, mais aussi au public, une autre image hein, des bibliothèques. Donc voilà. Donc Julie, partie passer son coup de fil, est une collègue de la bibliothèque de Bordeaux. Hein. Elle est responsable du développement des publics, de l'accueil, de l'action culturelle. Juste un petit lien avec le milieu du vélo, elle a mis en place notamment ici à Bordeaux un service de bibliambule, qui est une bibliothèque éphémère qui se promène en fait dans les quartiers. C'est un vélo, c'est une bibliothèque qui se déplie à partir d'un vélo et qui s'installe au beau jour dans différents quartiers de Bordeaux et qui est très, très apprécié des riverains. Aujourd'hui, Julie se présente sous une autre casquette, puisque comme beaucoup d'entre vous, elle a plusieurs vies. C'est sa casquette de membre du réseau professionnel national et international, puisqu'elle est co-responsable de la mission internationale de l'ABF et membre d'EBLIDA, le Bureau européen des associations de bibliothèques, de l'information et de la documentation. Et donc, au sein d'EBLIDA, elle pratique le lobbying et l'advocacy. Donc, l'advocacy, c'est une notion que l'on va aborder et détailler dans cette table ronde. Donc, bonjour. Donc, j'en profite pour présenter Estelle Gentillot, qui arrive à point nommé. Donc, bienvenue. Estelle est conseillère municipale déléguée au numérique, au service du citoyen auprès du maire de Bordeaux. Comme le disait M. Gallo tout à l'heure, elle a été en charge pendant 5 ans du livre, de la lecture publique et de l'équité culturelle. Donc Estelle connaît bien la bibliothèque. Pour vous décrire, vous nous avez proposé un fil rouge hein, de votre vie professionnelle, c'est la parole. Vous avez passé 15 ans derrière les micros de Radio France comme journaliste et animatrice radio et vous accompagnez aujourd'hui des élus, des dirigeants dans leur communication politique, publique et d'influence. Donc je vous laisse à tous la parole.
Merci beaucoup, Justine. Ah, puisqu'on parlait de vélo, il me semble qu'à Strasbourg, il y avait des triporteurs. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Comme le disait Justine, donc, moi, je ne suis pas un spécialiste du domaine politique à proprement parler, mais j'aimerais, pour commencer, vraiment inspiré aussi par cette première série d'échanges, mais par les introductions aussi qui ont permis de démarrer la matinée, revenir un peu sur cette articulation entre politique et bibliothèque. Je trouve que les enjeux ont été vraiment très bien posés par Dominique et Anna. Une articulation qui n'est pas si courante, il me semble, quand même, hein, dans le modèle bibliothéconomique français, ou dans les modèles bibliothéconomiques français, ou qui n'était pas si courante. Alors, je dois dire qu'elle est quand même bien posée, bien mise en valeur dans la dernière édition du métier de bibliothécaire, en particulier dans l'article sur l'advocatie d'Anne Verneuil, sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de revenir. Je voulais revenir sur cette articulation. Alors, je trouve que c'était très malin d'avoir mis un S à politique. Hein. Moi, je partage tout à fait cette précision, parce que je pense qu'on peut, et on l'a vu d'ailleurs hein, au cours de l'échange entre Dominique et Anna, encore une fois, on peut distinguer plusieurs niveaux peut-être de discours en ce qui concerne l'articulation politique et bibliothèque. Je dirais qu'on pourrait, c'est peut-être un peu artificiel et c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais distinguer au moins deux grands niveaux, un politique à l'état gazeux et un politique à l'état solide. Alors j'ai dit gazeux, j'ai pas dit fumeux, c'est pas du tout péjoratif, c'est gazeux dans le sens... un sens large, hein. Ça serait le politique des grands principes, des systèmes de valeurs, des idéologies, le politique des contenus, ouais, qui ont été largement évoqués au cours de la première rencontre. Ce qu'on va trouver par exemple dans le manifeste de l'UNESCO, puisque Dominique reparlait de ces grands textes, hein, les bibliothèques sont des portes d'accès locales à la connaissance. Voilà, là je trouve qu'on est vraiment sur la question des systèmes de valeurs. Et dans une acception plus restreinte, donc à l'état solide, opérationnel, lié bien évidemment avec cet état principiel, idéologique. Là, on est plutôt sur une dimension beaucoup plus pratique, beaucoup plus opérationnelle. On est dans les interactions aussi entre les différents acteurs et les différents niveaux d'acteurs. L'advocatie, par exemple, on peut considérer... On va peut-être en discuter, que c'est une forme de dialogue entre des professionnels d'un champ donné et des acteurs qui relèvent plus du politique, hein, du personnel politique. Voilà, là, on est sur des choses beaucoup plus concrètes. Hein, c'est-à-dire qu'il y aurait, et Dominique le montrait d'ailleurs hein, dans son intervention, il me semble en tout cas. Alors, notre table ronde, bien évidemment, va porter sur ces deux aspects, puisqu'il n'est pas question de les séparer hein, de façon arbitraire, ça serait ridicule. On va quand même essayer d'aller un peu plus sur le terrain de l'opérationnel et du pratique, hein, Justine le rappelait. Et pour présenter ces différents niveaux, et pour revenir notamment sur la question du pourquoi on va plaider la cause des bibliothèques et ensuite sur la question du comment on pourrait faire pour plaider utilement et efficacement la cause des bibliothèques. Nous avons donc réuni trois intervenantes que je remercie, en particulier Estelle. Autant que les autres, mais j'ai eu une petite crainte jusqu'à la dernière seconde. D'accord. Et Justine le rappelait, et je voudrais insister sur cet aspect, vous l'avez compris, elles sont à la croisée de plusieurs mondes, elles ont plusieurs attaches, et c'est ça évidemment qui rend leur intervention ce matin particulièrement intéressante, parce qu'elles ont aussi évidemment des savoir-faire en termes de connexion, en termes de traduction aussi, peut-être d'un univers à l'autre, d'un monde à l'autre, qui peuvent être très utiles sur les questions qu'on va aborder. Et nous allons commencer donc avec Elisabeth, avec Cyclo Biblio. Nous allons partir par les routes pour reprendre le titre du très joli roman de Sylvain Prodhomme que je vous conseille chaudement, même s'il n'est pas question de vélo, mais d'autostop.
Bonjour. Alors, on voulait juste commencer par notre teaser, en fait. Comme ça, vous allez avoir des images et les images parlent toujours très bien. Donc, c'est un petit teaser d'une minute, en fait, qui donne envie, parce qu'après, on a un film qui dure 30 minutes. Donc, si vous avez envie, vous pourrez aller voir le film de 30 minutes.
Le Louvre, Paris, en vélo pour prendre voir les bibliothèques.
Ah bon ?
On est 50 là, vous allez toutes les voir passer les uns après les autres.
Oui.
Et on va jusqu'à Paris pour parler des bibliothèques.
Ah bah il faut bouger. Hein. Merci.
Alors donc moi je vais vous présenter très rapidement donc Cycle Biblio. Hein, donc on est une association de professionnels, de bibliothécaires, dont l'objectif est de faire la promotion des bibliothèques et de permettre également des échanges entre toute la diversité des collègues qui travaillent en bibliothèque. Alors, cette promotion, donc vous l'avez vu, se fait à vélo. On y reviendra un peu après, je vous expliquerai. Alors, l'historique, en fait, cette idée vient du Nord. Donc, c'est des collègues finlandais qui ont trouvé cette chouette idée en 2010 d'aller à un congrès de l'IFLA à Göteborg, en Suède, à vélo. Donc, au début, ils sont partis sur une journée. Ils étaient un certain nombre, donc je pense plus d'une cinquantaine. Et du coup, ça a bien fonctionné. Ils se sont dit, l'année suivante, on va faire une beaucoup plus grosse étape. Donc, l'année suivante, ils sont partis de Copenhague. Ils sont arrivés à Berlin. Donc, ils ont fait 650 kilomètres. Donc, voilà, un gros, gros trajet dans lequel ils sont arrêtés dans un certain nombre de bibliothèques. Et l'idée, c'était de faire une conférence, c'est-à-dire une non-conférence. On va échanger entre nous. Et donc, l'idée, dès le début, c'était quand même quelque chose d'international. Donc, on va échanger entre des collègues qui viennent de partout, de toutes les bibliothèques, hein, la diversité des bibliothèques, et également, essentiellement, des bibliothèques européennes, mais également des collègues des États-Unis, enfin, du Canada, d'un peu partout. Donc, du coup, en 2014, le congrès de l'IFLA a lieu à Lyon. Donc, ils se sont dit, voilà, on va faire l'arrivée à Lyon. Donc, du coup, des Français se sont lancés dans l'aventure et on a organisé donc le Montpellier-Lyon. Donc aussi un gros parcours avec 100 participants. Et donc, c'est là qu'est né le Cycle Biblio, la branche française de Cycling for Libraries, et qui perdure jusqu'à présent, puisque maintenant, on est à la 6e édition, en fait. Hein. Et d'ailleurs, malheureusement, la branche finlandaise est un petit peu éteinte pour le moment. Donc, nous sommes un petit peu les derniers. Donc, les collègues finlandais sont très, très contents qu'on continue à faire vivre vraiment cette belle idée. Donc voilà. Donc pour l'advocacy, en fait, l'advocacy, bon, c'est une action publique et visible. C'est-à-dire que nous, 50 bibliothécaires, on nous rate pas. Hein, on nous voit avec nos gilets. Vous en avez vu. Donc à Cyclobiblio, on a tous des gilets. Alors gilets. Alors c'était les gilets jaunes avant. Bon, on a dû passer à la couleur verte pour les raisons que vous connaissez. Donc les participants ont un gilet vert. Et les capitaines de route, donc ceux qui encadrent, les organisateurs, cette année, on est parti sur le gilet bleu, qui est un peu moins visible. Donc voilà, on a notre gilet, et puis notre nom derrière. Voilà, comme ça, on peut s'interpeller, c'est assez facile. Donc l'advocacy, donc on part pour promouvoir, défendre le rôle des bibliothèques dans la société. Donc on va faire un plaidoyer, on se fait l'avocat, la défense des bibliothèques, on est là pour sensibiliser. Alors on part donc à la rencontre des bibliothécaires, des collègues, des élus, des usagers. En fait, vraiment l'idée c'est qu'on parle de nous. On est vraiment dans une opération pour faire parler des bibliothèques. Alors, on a la presse spécialisée. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des articles de Livre Hebdo qui nous suit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un participant par jour qui fait un article sur son ressenti sur la journée. Alors, pour ce faire, dans notre groupe, on a surtout des bibliothécaires relativement concernés par la chose politique, vous imaginez, par la vie de la cité. Souvent, ce sont donc des bibliothécaires assez engagés, soit dans d'autres associations professionnelles, et qui prennent souvent sur leur congé. Donc voilà, c'est vraiment une démarche très personnelle de se lancer dans cette opération. Alors, certains sont subventionnés, donc il y a des établissements qui subventionnent, voire qui partent en mission. Et ça fait partie aussi de l'advocacy, c'est d'aller voir son responsable et puis de lui parler de notre action. Et voilà, donc ça fonctionne souvent avec des gens qui font ça sur leur temps, d'autres non. Et on a un groupe assez mélangé. Alors donc, pour le pourquoi, alors pourquoi on part sur les routes? Déjà, d'abord, c'est le plaisir, hein, faut l'avouer, c'est quand même un vrai plaisir d'aller randonner dans une démarche écologique. Il faut savoir que le vélo, ça donne le temps. Et dans nos sociétés, on est quand même un petit peu à fond tout le temps. C'est quand même super agréable de se prendre un petit moment, on se pose, on peut discuter. Donc voilà, ce rapport au temps est très agréable. Il y a un rapport aussi au corps qu'on n'a pas forcément dans le monde des bibliothèques. Donc c'est pareil, on va faire un effort, on va sortir de sa zone de confort, on va... Pour certains, c'est un défi, hein. C'est vraiment parce qu'on n'a pas du tout que des cyclistes, on n'a pas que des triathlètes avec nous du tout, hein. Donc voilà, on se lance un défi. On va échanger entre nous, rencontrer aussi des bibliothèques de partout. Ça, c'est important parce qu'on se connaît pas tant que ça, les bibliothécaires universitaires, les bibliothécaires de lecture publique, la BNF, la BPI. Donc ça fait aussi tomber quelques préjugés. Attends, ils disent des fois, les bibliothécaires de BU sont pas si tristes que ça. Donc ça fait plaisir quand même de se dire que, parce qu'on a des images même dans notre profession entre nous. Bon, voilà, on a quelques images, donc on fait tomber un peu aussi ces images. Et on voit aussi qu'on est complémentaires, on peut s'apprendre des choses, et ça c'est vraiment intéressant. Et ça fait aussi changer l'image du bibliothécaire. Donc tout à l'heure, j'ai entendu l'image du bibliothécaire un peu coincé, un peu ringard. Il faut avouer qu'on a un petit peu cette image-là. Donc les gens, nous voyant sur leur vélo comme ça, aller plutôt vers se mettre en avant. Donc c'est pas tellement une image qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est aussi, voilà, on essaye de se débarrasser un peu de cette image un peu austère, coincée. Donc ce moment de cyclobio, c'est un moment où on va beaucoup se questionner, on réfléchit beaucoup. C'est un moment où on va montrer à la population rencontrée et à ses représentants, donc les élus, la qualité de leur bibliothèque et puis de leurs actions. Donc même s'ils la connaissent, donc on en met une petite couche là-dessus. Et puis, on va aussi dire que parce qu'on entend souvent ça dans les petites bibliothèques, oui, les livres, vous aimez lire et tout, c'est super. Oui, on aime lire, enfin pas tous, enfin si, dans l'ensemble. Mais aussi dire que les bibliothèques, c'est notre slogan, c'est pas qu'une histoire de livres, c'est plein d'autres choses, une bibliothèque. Donc on est vraiment là pour faire passer ce message. Donc les bibliothèques, c'est des lieux de vie. On s'efforce d'accueillir tout à chacun, quels que ce soit ses besoins, quelles que soient ses éventuelles difficultés. Les bibliothèques sont des lieux communs, des biens communs, qui coûtent cher à la collectivité, mais dont les usagers sont pour la plupart, dont les usages sont pour la plupart gratuits ou du moins très onéreux. Les bibliothèques, on en a parlé tout à l'heure, sont de loin les institutions culturelles les plus utilisées par les Français. C'est le premier réseau culturel de proximité. Donc tout ça, c'est des choses qu'on aime à rappeler. Et puis que les bibliothèques aussi, c'est un espace de liberté que nous devons défendre tous ensemble. Voilà un petit peu pourquoi on pédale.
Pour commencer, merci beaucoup Elisabeth. Tu peux peut-être juste dire où était filmée Marie Payet quand on voyait cette jeune
femme. On était au Havre. Alors je me souviens plus. C'est une église très contemporaine, enfin années 50, comme la ville du Havre. Je me souviens plus de son nom.
Très austère de l'extérieur fantastique de l'intérieur. Oui, ouais. Ça donnait envie d'y aller. Merci Julie. On va passer à une autre association et donc à une autre forme de rayonnement avec Eblida notamment.
Oui, alors donc moi je suis membre du bureau d'Eblida. Eblida, donc comme l'a présenté Justine, c'est une association à rayonnement européen d'advocacy pour les bibliothèques de lecture publique comme les bibliothèques académiques, bibliothèques universitaires. Alors je siège à Eblida, non pas en mon nom propre, hein, je représente bien sûr les associations de bibliothécaires, en particulier l'ABF, mais aussi toutes les grandes structures structurent justement notre territoire, telles que le CFIBD, et puis la BPI, la BNF. L'objectif, lorsqu'on siège à une association comme ça, c'est quand même de porter haut et loin l'ensemble de notre expertise française. Voilà, pour le point, le cadre. Alors, pourquoi faire de l'advocacy, et notamment au niveau européen ? D'abord, l'advocacy, c'est construire un plaidoyer commun sur le rôle des bibliothèques et leur côté indispensable. Et déjà, ce travail d'écriture, de plaidoyer, a un intérêt puisqu'il permet quand même de se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs et d'objectifs. Dominique le rappelait très justement tout à l'heure. On a des chartes à brandir, des textes internationaux qui nous protègent et font aussi notre fierté. Mais c'est aussi tout ce travail-là, presque philosophique, qui nous permet, qui alimente les plaidoyers que derrière on écrit, et notamment au niveau européen. Alors pourquoi écrire des plaidoyers ? Pour convaincre les décideurs politiques. Alors, quand on travaille en France, on peut peut-être se désoler de certaines communes, départements, qui lâchent un peu la lecture publique. Mais alors, quand on se projette au niveau européen, on mesure, et moi c'est ce que je mesure en tout cas, un peu la chance au niveau du territoire national par rapport à d'autres pays européens qui, eux, pour le coup, sont vraiment lâchés par les décideurs politiques en termes d'accès à la lecture publique, mais de manière plus prosaïque, qui sont lâchés en termes d'accès des populations au savoir. Hein, c'est à la culture et au savoir. Donc ça, c'est vraiment un travail un peu important en termes, considérant l'impact social des bibliothèques. Alors, construire un plaidoyer au niveau européen, c'est aussi savoir se rappeler à l'agenda politique européen, l'agenda politique européen des élections européennes, mais aussi des grandes élections nationales qu'il peut y avoir. C'est aussi la garantie que la problématique lecture publique sera bien dans toutes les mentalités et tous les agendas politiques européens. Pardon. C'est y a un impact psychologique assez fort de l'advocacy et du plaidoyer. Parce qu'on va voir le comment après, mais c'est quand même des rencontres avec des politiques, ce sont des rencontres de terrain, et donc c'est une manière de s'inscrire de manière plus ou moins fine et plus ou moins insistante, c'est vrai, pour rappeler que les bibliothèques sont indispensables en tant que premier accès au savoir et à la culture. Et c'est bien ça qu'on construit quand on fait un plaidoyer, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. C'est comme ça être à la présence de toutes les mentalités et de tous les agendas politiques. Construire un discours européen, c'est construire un discours supranational. Et je rejoins totalement, donc, encore une fois, ce que disait Dominique tout à l'heure. Ça donne une force particulière à ce que nous en disons. C'est-à-dire qu'on quitte vraiment le contexte particulier de nos territoires pour vraiment trouver la substantifique moelle de ce qu'est une bibliothèque et de ce qu'elle apporte. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et au niveau européen, c'est un exercice que je trouve fascinant. Pardon. C'est aussi... construire un discours d'advocacy, comme je le disais en préambule, c'est aussi garantir une représentation de la France et de son expertise et de sa qualité en termes de lecture publique au niveau européen. Et ça, c'est très important, parce que malgré tout, en France, on fait beaucoup pour la lecture publique. On a beaucoup de compétences et d'expertise, on a des programmes innovants, on a un maillage du territoire intéressant, on a des territoires qui vont de plus en plus vers la gratuité. Ce n'est pas une tendance qui est partagée dans beaucoup de pays européens. Et ça, c'est vraiment intéressant de concourir à diffuser ces connaissances-là. En termes de rayonnement de la France dans le domaine culturel, je pense que c'est très important. Alors, quelles ont été quels ont été les grands sujets d'advocacy menés par Eblida. Le dernier, vous en avez sans doute tous entendu parler, c'était la directive copyright. Donc ça a demandé 5 ans de travail, ça a été voté l'an dernier. C'est un travail important, notamment au niveau de l'exception au droit d'auteur, notamment en termes d'accessibilité. Et cette directive copyright, pour ne citer qu'un exemple, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, permet d'aller plus loin sur l'exception droit d'auteur pour l'accessibilité que la loi d'APSI que nous avions ici depuis 2008. Donc voilà, c'est un travail d'advocacy qui s'incarne dans une dimension législative européenne et qui en plus permet d'aller plus loin que ce que nous avions proposé en France dans une loi qui avait des côtés semblables. Et enfin, l'advocacy, et je rejoins ce que tu dis, c'est d'abord c'est un terme anglo-saxon, donc il ne plaît pas trop. Donc on peut l'appeler plaidoyer, mais c'est un peu en dessous de la démarche que ça induit. Et surtout, ça fait sortir notre côté français de sa zone de confort. Nous, traditionnellement, on trouve que c'est un peu vulgaire de faire du lobbying et de l'advocacy. Est-ce que c'est bien notre rôle ? Est-ce que... Il y a quand même une petite suspicion là-dessus. Donc, je vais parler à titre personnel et associatif. Donc, bien sûr, c'est notre rôle. Oui, nous devons faire de l'advocacy parce que ça a du sens sur notre territoire national. Parce qu'en termes de solidarité européenne, c'est indispensable. Parce que, comme je le disais, ici, finalement, les choses ne vont pas si mal. Il y a d'autres pays dans lesquels c'est loin d'être la même chose. Donc oui, nous avons vraiment un rôle à jouer en termes d'advocacy et notre position française nous le confère tout particulièrement. Voilà.
Merci beaucoup, Julie. Je pense qu'on reviendra sur ces questions de terminologie, mais de lien aussi avec la notion de lobbying et avec toutes les questions de neutralité, bien sûr, hein, parce qu'on voit que ça peut être assez complexe et problématique. Alors, nos deux premières intervenantes étaient... bibliothécaire, Estelle Gentillot est
proche de la...
pas bibliothécaire, mais quand même a bien connu la lecture publique.
Tout à fait.
Voilà, et donc là, vous intervenez avec votre, et ça c'est intéressant pour le sujet, avec votre casquette d'élu. Donc je vous donne la parole.
Merci beaucoup. Alors d'abord, je voudrais m'excuser pour le retard que j'ai eu tout à l'heure. C'est vrai que je vais avoir l'occasion d'intervenir sous mes deux casquettes, ma casquette aussi professionnelle, mais que j'utilise régulièrement aussi avec les bibliothécaires. Alors, je suis tout à fait sensible à ce que vous dites toutes les deux, et il y a plein de choses sur lesquelles je vais rebondir aussi au fur et à mesure, parce que tout cela est juste. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée en 2014, donc avec Alain Juppé, qui m'a proposé d'être en charge auprès de l'adjoint à la culture de la lecture publique. Parce que moi, je venais plutôt du monde du livre, et les deux semblaient liés. Et puis c'est vrai que je rentre, alors j'étais moi aussi usagère des bibliothèques, mais sans me rendre compte de quelle était la place véritable des bibliothèques dans la ville, dans la collectivité, et dans l'accès au savoir, l'accès à la citoyenneté. Et c'est vrai que ce sont les bibliothécaires de la ville de Bordeaux qui m'ont initié, qui m'ont montré, qui m'ont fait vivre les choses. Et en ça, je les remercie, parce que je pense que c'est aussi pour les élus, et je vais beaucoup en parler, une question de représentation. Quand on regarde la place des bibliothèques, on est bien au-delà des représentations, et la bibliothèque de Bordeaux a beaucoup travaillé avec les habitants et avec les élus à déconstruire ces représentations d'un lieu qui reste un lieu silencieux où il y a des gens qui sont un peu monomaniaques sur leurs livres et pour lesquels, en fait, on a construit une espèce de cathédrale du savoir qui est assez hermétique au reste des usages. C'est une répression, une représentation qui fait totalement long feu, alors que finalement, quand on met les mains dans le cambouis, quand on est élu, quand on regarde ce qui se passe, on voit que ça n'a absolument rien à voir avec ces représentations, et que même on a tendance peut-être aussi à sursolliciter les bibliothèques, parce que elles font partie non seulement, et vous l'avez très bien souligné, des politiques culturelles, c'est le premier réseau culturel de proximité. C'est aussi un acteur qui est indispensable dans les politiques sociales. Alors, on le met pas comme acteur principal, mais on se rend compte que dans toutes les actions culturelles, les actions sociales de la bibliothèque, évidemment, c'est un acteur social qui est absolument majeur, parce que ce soit dans les liens qui ont été créés avec des partenaires institutionnels, mais aussi, et notamment, je pense aux bibliothèques de quartier, aux bibliothèques rurales, aux petite bibliothèque, pas dans l'impact, mais dans la taille, il y a une connaissance du territoire, il y a une connaissance des gens qui viennent à la bibliothèque, mais pas seulement des associations, de ce qui se passe sur le territoire, qui est extrêmement fine. Et pour nous élus, écouter les bibliothécaires de quartier, c'est extrêmement utile pour avoir aussi le pouls d'un quartier. Par exemple, dans un quartier de Bordeaux, qui est le quartier du Grand Parc, qui est un quartier avec des problématiques sociales importantes, si on ne se contente que d'écouter la police municipale, on va pas avoir une représentation du quartier qui soit extrêmement juste. Or, on a tendance un peu à aller vers là où ça va pas systématiquement pour faire un diagnostic. Alors, ça veut pas dire que les bibliothécaires ne sont confrontés qu'à ce qui va, bien loin de là, mais c'est aussi une façon différente de percevoir le territoire. Et pour nous, les élus, c'est extrêmement précieux d'avoir ce regard-là. Il y a une autre politique aussi aujourd'hui, pour laquelle je crois les bibliothèques sont absolument indispensables, et on travaille beaucoup en sens aussi avec la bibliothèque de Bordeaux, c'est le numérique. Et vous allez voir, évidemment, c'est aussi une de mes nouvelles fonctions, le numérique au service du citoyen, que j'ai auprès de notre nouveau maire, Nicolas Florian. Aujourd'hui, on a une problématique de citoyenneté qui est liée au numérique. Et on a aussi une problématique d'exclusion sociale qui est liée au numérique. C'est pour ça que l'inclusion numérique fait partie aussi de toutes les nouvelles compétences et capacités des bibliothécaires. Parce que vous êtes aussi parmi les premiers à avoir identifié, à être confrontés à ces problématiques qui sont extrêmement simples, c'est-à-dire de comment moi je fais pour, par exemple, avoir un contact avec ma CAF, avec Pôle emploi, pour des petites choses, faire une recherche sur Internet, ce qui paraît pour beaucoup de gens absolument évident, mais pour beaucoup d'usagers, ça ne l'est pas encore. Alors, vous avez peut-être évoqué ces problématiques, mais aujourd'hui, c'est un Français sur 5, voire un Français sur 4, qui n'est pas du tout à l'aise avec le numérique. Donc, avoir aussi dans le diagnostic et dans l'approche cette richesse de ce que peuvent nous apporter justement dans leur regard, dans leur expérience les bibliothécaires, c'est absolument indispensable. Et puis en venant, je me disais, il y a une autre politique publique ou en tout cas un champ d'action public auquel j'aurais pas associé les bibliothécaires et les bibliothèques de prime abord. Et en fait, je vous en parlais pas mal parce que ça m'a beaucoup interrogée. J'ai beaucoup pensé à cette réunion ce matin, ces derniers jours, parce que je suis allée à Barcelone où se tenait le congrès international des smart cities, donc des villes intelligentes. Et je me dis, mais finalement, est-ce que la bibliothèque, ça fait partie de la smart city? Et je me dis, en fait, la Smart City, c'est une notion où j'ai beaucoup entendu parler de business, d'économie, d'attractivité. Je me dis, mais est-ce que la bibliothèque, ça participe à l'attractivité des territoires? Je me dis, mais attractivité, c'est un côté quand même, j'attire, je prends, mais est-ce que je redonne? Et en fait, j'en suis venue à la conclusion, dans l'avion avec les oreilles bouchées, que c'était peut-être justement aussi un rôle essentiel des bibliothèques et des bibliothécaires, c'est que c'est pas attractif dans le sens économique, une bibliothèque, mais c'est attractif socialement, parce que ça permet de fédérer, d'attirer, de créer du lien social. Et il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans cette notion d'attractivité économique, c'est le fait de redonner. Et peut-être plus encore qu'attirer, les bibliothèques donnent et redonnent. Et c'est en ça que dans le pourquoi il faut défendre et pourquoi il faut faire des plaidoyers pour les bibliothèques, parce que dans une acception politique aujourd'hui du champ public, où on parle beaucoup d'attirer, de développer, de densifier, pouvoir dire aussi, mais nous on redonne et on crée. Et on n'est pas uniquement dans un lien qui est descendant ou dans un seul sens, on est dans un lien qui est créatif et qui est riche et qui est enrichissant dans les deux sens. Pour reprendre un terme business, je l'ai beaucoup entendu, ça me faisait rire, c'est win-win la bibliothèque, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire tout le monde. La bibliothèque permet de donner, mais le lien social sur le territoire s'enrichit, permet de redonner à la bibliothèque qui va redonner elle aussi. Donc pour moi, ça, c'est un des éléments essentiels. Ensuite, Julie le disait très justement, l'accès au savoir. La bibliothèque reste un endroit où on peut accéder au savoir, à la connaissance, à la citoyenneté, de manière gratuite, et de manière gratuite parce qu'on n'est pas le produit. Aujourd'hui, quand je fais une recherche sur Google, où effectivement, l'accès à ce qu'on estime être aujourd'hui le savoir est pléthorique,
On est un produit. On n'accède pas au savoir gratuitement, c'est-à-dire de façon désintéressée. Aujourd'hui, quand je monte dans les étages de la bibliothèque, quand je prends un livre, quel qu'il soit, j'y accède gratuitement et on ne me demande rien en retour. Et ça, c'est essentiel parce que l'accès au savoir, à la culture, et on est dans la ville de Montaigne et de Montesquieu ici, donc à la lumière, aux lumières, à l'esprit éclairé, à la capacité d'être citoyen parce que je comprends ce qui se passe et j'ai suffisamment de clés pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre aussi sans qu'on m'impose un schéma de pensée. C'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui. Et c'est moi quelque chose, là encore, sur mes deux jours passés dans ce grand congrès qui m'a fait peur, c'est que aujourd'hui, l'accès au savoir, il n'est plus du tout désintéressé, il est très orienté. Et on estime aujourd'hui être du savoir des faits qui ne sont pas vérifiés, qui sont donnés en masse, sans aucune perspective, sans aucune analyse. Et c'est en ça aussi que le fait d'avoir accès à la presse, à la bibliothèque, ça reste un endroit... Moi, je suis intervenante dans une école de communication et de journalisme où je panique à chaque début d'année parce que quand je leur demande « comment vous informez-vous ?» non seulement les premières années, c'était « on ne lit pas la presse », mais où aujourd'hui on me dit je m'informe Spoutnik et RT, parce que vous comprenez madame, la presse en France est tous des pourris, ils sont tous à la solde du pouvoir. Donc la bibliothèque, je leur dis mais avec votre carte de bibliothèque vous avez accès à la presse, même si vous n'avez pas de moyens vous pouvez lire la presse et lisez la presse, lire la presse c'est un accès aussi à la citoyenneté et à ce lien qui nous permet de rester libre, parce que derrière tout ça, il y a aussi des questions de liberté publique qui sont en train de se nouer. Et puis, parce que je vais essayer d'être un peu plus synthétique, dans la politique publique du numérique, il y aura ça aussi dans le plaidoyer à intégrer. C'est qu'il ne s'agit pas d'aller contre le numérique. Pas du tout. Le numérique, aujourd'hui, c'est une donnée intangible de notre société. Elle est là, autant faire aussi qu'elle soit là, mais selon nos règles du jeu. Mais derrière cette question numérique, c'est aussi comment la bibliothèque, au sein de notre organisation sociale, c'est-à-dire la démocratie, la République, les valeurs qui sont portées, l'égalité, la fraternité, la liberté, on peut justement préserver ces libertés publiques. S'il y a bien un enjeu auquel les bibliothèques sont confrontées, et rapidement, parce que vous avez tous les signaux faibles qui sont là, qui sont de plus en plus des signaux forts, c'est que derrière le numérique, il y a aussi ces géants du numérique pour lesquels nous ne sommes plus des citoyens, nous ne sommes plus des individus, nous sommes des sources de financement, nous sommes des sources économiques. Et en ça, la bibliothèque, en restant indépendante et républicaine, elle permet aussi de rester des individus et des individus libres. Libre. Là, j'ai fait un lapsus révélateur. L'individu libre.
Livre libre, oui. Merci beaucoup, Estelle. Je pense que ça va permettre de susciter pas mal de questions et de débats. Et nous aurons sans doute l'occasion de revenir aussi sur la question, peut-être au sein des BLIDA notamment, et du groupe ELSA, sur la question des impacts des bibliothèques. Enfin, j'aimais beaucoup cette façon de resituer la bibliothèque dans une économie de marché, mais de rappeler aussi qu'elle relève de l'économie du don. Et ça, c'est effectivement extrêmement important. Alors, on va essayer de venir sur des aspects un peu plus opérationnels, pratiques, et sur peut-être des dispositifs ou des exemples d'action. Revenir donc plus précisément sur la question du comment faire. On vient de poser les choses. Je pense que là, nous sommes tous d'accord pour effectivement assurer cette défense des bibliothèques, cette meilleure connaissance même tout simplement des bibliothèques. Mais alors, comment ? Elisabeth, je te redonne la parole.
Alors, moi, j'avais juste quelques petites images, si on pouvait les passer au fil du discours. Alors, donc, nous, notre comment, donc, on est très attachés à la communication. C'est vraiment quelque chose qu'on soigne énormément. Donc, on a donc un site internet. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. On est assez suivis, donc Facebook, Twitter, Instagram. On va diffuser une information. Donc là, par exemple, notre logo. Alors, c'est que des bibliothécaires qui sont graphistes à leurs heures perdues. Notre responsable des réseaux sociaux, c'est aussi une bibliothécaire. Voilà, c'est des gens qui ont des compétences qui vont mettre au service de notre association. Et puis là, c'est une image. Alors voilà. Donc, du coup, l'advocacy. Donc, on va aller vers le public, mais alors pas que le public de l'usager. On va pas uniquement tracter dans les bibliothèques. Ce serait trop facile. Donc, on va On va effectivement, le long de notre parcours, aller tracter. Donc, on a un flyer, voilà, que j'en ai mis quelques-uns sur la table, où on résume un petit peu nos actions. Donc, on en a un qui parle de notre parcours et l'autre qui va plutôt parler de, qui va décliner en fait, une bibliothèque, ça sert à quoi ? Éveiller les sens et l'imaginaire, assurer la liberté d'expression, trouver et interroger l'information, stimuler son esprit critique, contribuer à une société plurielle, proposer des espaces accueillants, se former au numérique. Ça, c'est arrivé cette année. Ça nous a paru important de le mettre en valeur. Découvrir l'inattendu, c'est pareil. C'est vraiment une action où on va à la bibliothèque. On va pas forcément savoir ce qu'on va trouver, mais on va le trouver. Donc voilà, donc on va vraiment s'appuyer. On est avec nos tracts et puis on va aller vers le public. Donc on voit là à tout moment, même sous la pluie, avec nos capes de pluie. Donc voilà, ça c'est un moment assez important. On a également tout un panel de goodies. Enfin, essentiellement, ce sont des badges qu'on va distribuer, des marque-pages. J'en ai mis quelques-uns aussi. Ça marche bien aussi, les marque-pages. Donc voilà. Alors après, l'autre moyen, ça va être tout ce qui est captation vidéo. Donc vous avez vu tout à l'heure, hein, donc un extrait. On va notre donc Véronique Dousseau, qui travaille à la bibliothèque municipale de Metz, et forme souvent une petite équipe. Donc on a une petite équipe vidéo qui va aller à la rencontre des usagers, des politiques, les interviewer, et donc on les met très rapidement en ligne. Donc on voyait tout à l'heure une petite fille, elle l'interroge, donc on est dans la bibliothèque Niemeyer au Havre, et donc elle va l'interroger sur elle, c'est quoi une bibliothèque pour elle. Donc voilà, on a des moments assez plaisants, et vraiment beaucoup dans le spontané. Elle filme avec son smartphone, c'est des choses très simples, et elle met en ligne très rapidement. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Donc, on va aussi beaucoup interviewer les élus. Du coup, ça les fait parler des bibliothèques. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et de relayer après ce message positif qu'ont souvent les élus, comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin, ils sont vraiment fiers de leurs établissements. C'est des choses sur lesquelles ils ont vraiment beaucoup travaillé. Donc voilà, ils sont aussi fiers d'en parler. Et ça, c'est important de transmettre leurs paroles. Donc j'ai dit aussi tout à l'heure, on a un article par jour dans Livre Hebdo. Donc ça, c'est pareil. Alors du coup, c'est des collègues qui vont écrire. Alors c'est pas facile. On pédale toute la journée, on visite, on rencontre plein de bibliothèques, on a des ateliers où on va transmettre des connaissances, et en plus le soir il faut écrire un article, on n'a pas l'habitude, hein. Enfin, c'est des choses, mais c'est aussi très stimulant vis-à-vis de leurs collègues en rentrant de cette semaine. Voilà, ils peuvent aussi être fiers de ils ont écrit un article dans Livre Hebdo, ce qui est quand même assez on peut être fiers de ça. On a aussi une communication assez décalée. Donc, on a des participants toujours assez drôles. Donc, du coup, par exemple, cette année, on a fait un roman photo. Donc, on a un de nos collègues qui travaille à la bibliothèque, à une bibliothèque universitaire à Toulouse, qui a trouvé ce moyen de communiquer. Donc, on va parler de cycles biblio sous la forme d'un roman photo. Donc j'en ai amené quelques exemplaires, donc vous pourrez les consulter. Voilà, c'est des choses où on prend beaucoup de plaisir, hein, voilà. Donc c'était le long du parcours. Il y a des scènes, des vraies scènes, et puis des scènes aussi de mise en scène. Donc on a travaillé sur le scénario, enfin voilà, des choses. Donc ça, c'est vraiment important. On veut aussi transmettre le message, mais d'une façon. Moi, je fais aussi des sketch notes. Enfin voilà, on essaye de présenter ça de plein de façons différentes. Donc du coup, là, c'était la partie com. Il y a aussi un gros travail avec les bibliothécaires qui nous accueillent. Nous, on est vraiment un échelon très local, hein, donc on a vu différents échelons tout à l'heure. Nous, on est vraiment à l'échelon local, même si bien sûr on s'inscrit dans un mouvement international, on est là, voilà. Donc on va vers les bibliothèques. On les approche, voilà, elles sont sur le parcours. On va pas que dans des belles bibliothèques, hein, on s'arrête aussi dans des bibliothèques, toutes sortes de bibliothèques. Et donc, si s'il y a quelque chose qui se passe entre quand on se présente, si elles sont OK pour nous recevoir, si on voit qu'il va se passer quelque chose, on y va. Et donc, on leur demande de prendre contact avec leurs élus pour les faire venir. Enfin, c'est vraiment, on leur demande voilà, de travailler sur cette communication. Nous, on ne peut vraiment pas tout faire. Enfin, je veux dire, ça ne serait pas efficace. Donc, c'est vraiment elles qui vont prendre les choses en main et aller vers leurs élus, leur parler de notre arrivée, c'est un prétexte en fait, et leur demander de venir à ce moment-là, donc voilà, et de motiver leurs équipes aussi voilà, pour nous accueillir. Donc du coup, on se retrouve avec, par exemple, des bibliothèques, la médiathèque de l'Eure l'année dernière sur Le Havre-Paris, qui a vraiment fait un gros travail pour nous aider pour toutes les bibliothèques, les petites bibliothèques de l'Eure. Et du coup, l'équipe a pédalé aussi avec nous pendant 2-3 jours. Donc on avait en plus des collègues de la médiathèque de l'Eure qui nous ont suivis sur ce parcours. Et c'est aussi parfois même des moments de remotivation de l'équipe. Il y a 2 ans, on a fait Angers-La Rochelle, on est passé à la médiathèque de Niort. Les médiathèques départementales. Les médiathèques départementales n'ont pas tellement l'habitude de recevoir. C'était un peu pour elles, c'était tout nouveau. Et nous, c'est pareil. Je crois que c'était une des premières fois qu'on allait dans une médiathèque départementale. Et du coup, à cette occasion, la directrice a été tellement motivée, elle a réussi à faire venir le président du conseil départemental. Et ben, c'était la première fois qu'il venait à la médiathèque départementale. Pour elle, c'était vraiment un super prétexte. L'équipe était ravie. Elle nous disait bon, l'équipe est un petit peu. La position des médiathèques départementales n'est pas toujours évidente. Et ça a été vraiment un moment de remotivation de l'équipe. De valorisation, le fait que le président du conseil départemental vienne. En plus, il avait fait un truc un peu classe. Enfin, il y avait une arche gonflable. Enfin, vraiment, on avait l'impression d'être le Tour de France qui arrivait. Enfin, vraiment, c'était. Et ça a été vraiment un chouette moment de partage et qui a été vraiment mis en place par cette bibliothèque. Ils ont réussi à motiver la communication. Enfin, vraiment un truc très, très classe. Et ça, c'est vraiment très, très, très sympa. Donc voilà, on est vraiment dans une relation triangulaire entre nous, l'association, les bibliothèques et les politiques. Voilà, on passe pas directement de nous aux politiques, ça marcherait pas du tout. Voilà, on a vraiment besoin de cet intermédiaire et pour en quelque sorte, c'est aussi leur mettre le pied à l'étrier, aussi aller vers. On va se mettre en avant et on est un bon prétexte en fait, je pense pour cette action. Donc voilà, et alors après, maintenant, le troisième point, c'était le travail de motivation des bibliothécaires participants, parce que on a besoin d'eux, on va les mettre en... Alors voilà, justement, on va les mettre en avant. Un bibliothécaire qui fait du vélo, on a inventé un mot, c'est le cyclothécaire. Donc voilà, nous avons un cyclothécaire, donc Eddy, qui est belge, parce que donc dans notre peloton, on a des Danois, Suédois, on a Belge, Eddy, le Belge, qui vient chaque année. Et donc, on demande une fois par jour à nos participants de faire un discours. Ça, c'est pareil. Alors, on fait, nous, un discours. Donc, on prend la parole pour expliquer un peu à quoi on sert, pourquoi on est là. Et après, on demande à un participant de prendre la parole. Donc là, c'est pareil. Donc, Eddy, il a pris la parole. Pour donner, alors soit sa vision de la bibliothèque, sa vision du tour, enfin c'est très libre. On fait des choses qui sont voilà et c'est toujours très émouvant. C'est beaucoup dans le spontané. Donc là ils étaient 2 à prendre la parole ensemble. Donc voilà, il y a un travail de mise en pratique de l'advocatie. On y va. On sort, comme je disais tout à l'heure, là, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. On n'a pas l'habitude, nous, dans les bibliothèques, de prendre la parole, de prendre le micro. Donc on se lance. On va aussi, par exemple, animer un atelier. On leur propose, on partage des choses. Donc, un tel va animer un atelier, quelque chose qu'il a mis en place dans sa bibliothèque. Il va le présenter aux autres collègues et dans les bibliothèques qu'on accueille. Du coup, les bibliothèques peuvent aussi participer à ces ateliers. Donc, ça va être un atelier... un atelier SketchNote, par exemple, un atelier, je me souviens, Marie Paillet de la BPI qui nous avait fait un atelier où elle avait fait un retour sur le prêt de livres vivants. Enfin voilà, c'est vraiment des choses, on va transmettre des choses qu'on aime. Hein. C'est vraiment, on est quand même dans le partage de choses très agréables. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc vraiment, il y a un aspect participatif qui est vraiment très fort. Et donc le quatrième point, c'était en fait, depuis 2 ans, on travaille beaucoup avec l'ABF. En fait, Au début, c'est vrai que l'idée, c'était d'arriver à un congrès. Donc, le premier, c'était l'IFLA à Lyon. Puis après, ça s'est un peu perdu. On a fait des tours, mais on avait un petit peu... Enfin, voilà, on arrivait... Il n'y avait pas vraiment de lien avec le congrès de l'ABF. Du coup, on perdait quand même en visibilité. Et donc, depuis 2 ans, on a décidé de retravailler ensemble. Et pour arriver, donc du coup, à Angers-La Rochelle, on est arrivé pour le congrès de l'ABF à La Rochelle. L'année dernière, on est arrivé pour le congrès à Paris. Donc là, on a fait un super effort parce que quand même, ce n'est pas facile d'arriver à Paris. Enfin, moi, si, pour moi, ça va parce que je suis parisienne. Mais pour le peloton, c'était quand même un truc assez compliqué. Mais voilà, on l'a fait. Puis... l'année prochaine, on arrivera à Dunkerque. Donc ça, pour nous, c'est important en termes de visibilité et de retrouver des collègues. Après, on a un stand pendant le congrès où on va reparler de notre action. On trouve aussi des gens qui veulent participer. Enfin voilà, l'idée, c'est que le peloton se renouvelle chaque année. On ne va pas faire ça entre nous tout le temps. Enfin, c'est pas le but. Donc il y a un renouvellement chaque année, la moitié du peloton qui se renouvelle. Donc voilà, en gros, les quatre comment on s'y prend pour faire tout ça.
Merci beaucoup. C'est vrai que tu parles de peloton, caravane publicitaire, goodies, présence des élus. On pense un peu au Tour de France, hein. Mais il n'y a pas de classement.
Aucun classement, il n'y a pas de compétition. Alors d'ailleurs, c'est ouvert, c'est très inclusif. Il y a des vélos électriques, il y a des vélos musculaires. Enfin voilà, l'idée, c'est d'arriver tous ensemble, entiers, et en même temps.
D'accord, merci.
Et tous ensemble, alors voilà, l'arrivée du peloton, voilà, du coup j'ai pris mon petit instrument, c'est la sonnette. Ça c'est le signe de leur ralliement, donc quand on est arrivé l'année dernière à l'ABF, au Congrès de Paris, voilà, c'est un petit concert de sonnette à l'arrivée.
Merci beaucoup Julie, donc sur cette question du comment.
Alors oui, comment faire de l'advocacy au niveau européen? Bon, alors ça c'est toute une histoire. Donc d'abord, peut-être le moment le plus fort, enfin, là où en tout cas les relations humaines sont les plus évidentes, c'est lorsque nous rencontrons les membres du Parlement européen. Donc on les rencontre au moins une fois par an, à la journée, c'est une journée en octobre, à l'occasion du Generation Code Week. Donc c'est à la commission, c'est au Parlement européen de Bruxelles, là où il y a les commissions, parce que c'est là que les parlementaires ont leur bureau. Et c'est une journée marathon où on va rencontrer nos parlementaires. Donc on s'organise avec des listes et puis on a envoyé des mails un mois avant, puis 3 semaines avant, puis 2 semaines avant, puis la veille, puis jusqu'au soir juste avant. Et puis on espère qu'ils vont passer là où on a notre stand. Et puis s'ils ne passent pas, on va les débusquer dans leur bureau, on va discuter avec les attachés. Donc on est peut-être légèrement insistant à ce stade-là. Bon, mais on l'assume complètement et l'histoire, c'est quand même de se rappeler à leurs agendas politiques et d'être une entrée pour dialoguer sur la lecture publique en Europe, mais bah, ne soyons pas naïfs aussi sur nos territoires nationaux, puisque bien sûr, un élu européen a aussi une dimension nationale forte. Alors, en fonction des pays... il y a certains qui rencontrent l'ensemble de leurs parlementaires parce que toutes casquettes confondues, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense notamment à Jean-Marie, mon collègue luxembourgeois. Et moi, je ne m'amuse pas à tous les rencontrer naturellement. J'essaie déjà de faire le tour de la commission culture où ils sont une petite dizaine, plus quelques autres qui ont manifesté dans le passé leur intérêt marqué pour les bibliothèques ou qui ont eu dans leur histoire, ils ont siégé déjà dans cette commission culture. Donc voilà, on les rencontre, on se rappelle à leurs agendas. Ça veut dire que derrière, on a aussi toute une communication clé en main à leur donner. Alors l'ennui quand on fait de l'advocacy au niveau européen, d'un point de vue français, c'est donc les éléments de communication sont en anglais et que ça ne plaît pas encore toujours, malheureusement. Bon. Mais je m'efforce de traduire un certain nombre de choses quand j'en ai le temps. Donc voilà, il y a cette rencontre. Interpersonnel avec les parlementaires qui est fondamental. Et on a aussi, bien sûr, ça c'est le deuxième point, on construit des campagnes d'information. Donc là, c'est pas EBLIDA tout seul, hein, bien sûr, c'est EBLIDA avec Public Library 2030, qui était avant Public Library 2020. Donc c'est un groupe d'advocacy qui est initié par la Hollande et qui a pris très vite une dimension européenne et qui va fédérer plusieurs associations en son sein, en termes de projet. Ça peut être avec l'IFLA aussi, bien sûr. Donc on va ensemble préparer des campagnes d'information générale sur les atouts des bibliothèques. Et là, ça se décline, comme tu le disais, en une série de goodies ou d'éléments d'information. Les sites internet, les cartes postales, des mailings, de l'intervention sur les réseaux sociaux. Tout ça pose la question de la communication, parce que avec nos goodies, bon, outre le fait que c'est peut-être pas une démarche très développement durable, c'est une autre question, ça pose la question de la communication et du côté un peu gadget. Est-ce qu'on est dans une gadgetisation du message défendu? Oui. Oui, un peu. Mais on est dans une société de l'image. Et quelque part, l'advocacy joue avec cette donnée-là. On a conscience d'être dans une société qui est une société de la communication, de promotion individuelle et ou professionnelle sur les réseaux sociaux. Et du coup, on y va. Alors, je peux donner un exemple. Eblida et Public Library 2030 ont réfléchi, je pense que c'est un programme qui a 10 ans, à un dispositif qui s'appelle Public Library Lovers. Ça veut dire qu'on a donné des labels à des parlementaires européens qui devenaient des Public Library Lovers. Donc, je ne suis pas obligée de traduire, je suis sûre, mais je vais quand même le faire, des amoureux des bibliothèques publiques. Et donc, c'est un petit label et c'est repéré dans leur site de présentation sur le Parlement européen. Il y a le label Public Library Lovers. Ça, c'est assez futé, c'est assez bien pensé parce que c'est très visible. Et alors, ils vont plus loin. Quand le Public Library Lover ou quand il y a un candidat pour devenir Public Library Lover à cette fameuse journée de la Generation Code Week, journée de... Generation Code, comment je peux traduire ça ? Generation Code Week, la semaine consacrée aux atouts du numérique dans les bibliothèques, parce que bon, c'était un raccourci. Donc voilà, quand on rencontre ces parlementaires, donc il y a un espace photo où on peut prendre des photos un peu avec une automatisation d'un Polaroid, quoi, et on fait des photos avec des goodies pour dire qu'on est public et bien le verse. Bon. Bon, évidemment, je suis française, donc moi aussi, je trouve ça un petit peu poussé. Hein. On a, voilà, il y a le côté où on se dit aïe aïe aïe, mais où est-ce qu'on va? Oui, mais ça marche. Voilà. C'est vrai qu'en effet, sur Facebook ensuite, bon, j'ai un Facebook professionnel, mais je reviendrai ensuite à l'engagement personnel que cela implique, ce type d'activité. Oui, la personne qui a fait son Polaroid l'a retweeté en le refotographiant, ce qui, entre parenthèses, est curieux, mais bon, l'a remis sur sa page Facebook, vous a identifié, a identifié Eblida, a identifié le programme dont il était question. Et quelque part, là, on a créé une communication qui est relativement efficace, c'est-à-dire qui atteint pas mal ses cibles avec ce gadget de com. Donc, je me permets de revenir là-dessus parce qu'il y a quand même vraiment une critique française sur la gadgetisation qu'induit l'advocacy, sauf qu'elle a une certaine efficacité. Voilà, je me permets juste de le souligner. Alors, l'advocacy, outre ses gadgets de communication et ses temps forts, c'est aussi faire la démonstration de la nécessité des bibliothèques. Et donc, Christophe, tu rebondissais dessus, il y a des groupes d'experts, donc là, à Eblida, il y en a au moins deux, dans lesquels participe la France. Donc, Christophe représente donc la France dans le groupe sur l'impact. Donc oui, je rebondis sur ce que tu disais, Estelle. Donc il y a tout un travail des bibliothèques, donc qui a été peut-être initié de la manière la plus visible par Fezabid en Espagne, qui a fait cet intéressant rapport sur l'impact des bibliothèques, rapport qui doit dater de 2015, mais je dis peut-être une ânerie, mais je crois que c'est 2015 ou 2014.
Oui, l'enquête avait eu lieu en 2012, mais le rapport est de 2014.
Ouais. Voilà,
2014. L'impact économique.
Oui, impact économique des bibliothèques, donc c'est l'association des bibliothécaires espagnoles qui l'avait porté, Fezabin, et c'est vraiment une étude qui est vraiment intéressante parce qu'elle va un peu chiffrer, elle va un petit peu, encore une fois, sur ce territoire un peu mal aimé de l'économie pour les bibliothèques, mais qui est utile. Alors encore une fois, qui est peut-être Nous, on n'en ressent pas encore peut-être complètement l'urgence en France, encore qu'il y a des départements qui ont beaucoup à redire par rapport à ce que je présente là. Mais il y a des pays en Europe qui, eux, doivent absolument passer par cette démonstration pour défendre l'intérêt et la nécessité qu'il y a à avoir une bibliothèque. Et donc, à Eblida, il y a des groupes d'experts comme ça. Donc, Christophe Evans a intégré le groupe d'experts sur l'impact. Et donc, on s'est fixé, je pense, 3 ans pour aboutir à un diagnostic et des recommandations au niveau européen. Et le deuxième groupe, c'est sur les lois, le dispositif légal, dans lequel nous avons également un représentant français qui intervient. Alors, l'advocacy, ça s'incarne aussi dans le fait de sensibiliser les bibliothécaires, les professionnels des bibliothèques, et notamment au cours de journées professionnelles. Bon, celle-ci est un exemple, donc je vous remercie de m'avoir invitée. Et sinon, il y a aussi, bien sûr, des congrès organisés par Eblida ou par Liber, qui est une autre association d'advocacy au niveau européen. Il y a le congrès de l'IFLA. Ça, ce sont des moments d'information qui sont intéressants et qui font toujours l'objet de productions qui sont accessibles aussi. Et ça, c'est important. C'est une dimension très importante de l'advocacy. Je pense qu'au niveau supranational, pour l'advocacy, l'une de nos grandes préoccupations depuis depuis les 10 dernières années, mais qui est vraiment prégnante désormais, c'est de créer de la cohérence. C'est qu'on ait plusieurs instances d'advocacy et il ne faut surtout pas qu'on donne l'impression d'être éparpillé dans le message qu'on défend. Il faut que ça ait de la cohérence entre nous. Que l'IFLA est un message avec lequel on puisse s'articuler, qu'on s'articule avec le message de Liber, donc une autre association d'advocacy qui est sur les bibliothèques universitaires. Donc on a beaucoup de moments d'échange pour avoir quand même une parole distincte, parce que les objets peuvent être distincts, mais homogènes, c'est-à-dire pas contradictoires au moins. Et ça, c'est un élément important qui, là, dans les années qui viennent, devrait notamment s'incarner dans le renouvellement des vœux des bibliothécaires aux objectifs du développement durable. Là, c'est vraiment un sujet sur lequel nous allons tous travailler en concertation. Et enfin, pour terminer sur le comment, c'est un engagement, l'advocacy, c'est un engagement associatif, donc c'est un engagement personnel. C'est-à-dire que ça demande aussi de s'impliquer personnellement et de diffuser tout ce qu'on a envie de défendre au niveau de sa sphère personnelle également. Ça veut dire qu'il y a quand même une porosité des casquettes à un moment donné. Ça veut dire aussi, comme on est à Bordeaux, j'y résiste pas, que dans une société qui a quelques risques anomiques, je me permets de citer Durkheim, mais je m'arrêterai là, ça pose quand même question de l'engagement associatif et donc de la défense de certains points qui méritent quand même d'être défendus et d'être portés. Et enfin, cet engagement associatif et personnel n'existe que s'il est rendu possible, encouragé à la fois par sa hiérarchie et par la collectivité, dans mon cas, dans laquelle on travaille. Il faut savoir qu'ici, la collectivité le rend possible, en accordant des jours de congés associatifs supplémentaires. Et ma hiérarchie m'accorde mes absences et mes voyages. Et ça, c'est une dimension très importante. Il y a des collègues que l'on rencontre, notamment quand on fait des réunions au niveau de l'ABF, qui n'ont pas cette possibilité-là.
Merci beaucoup, Julie. Je prends la balle au bon pour rappeler que la BPI s'est vue confier le 3e chantier de l'étude nationale des impacts des bibliothèques et que ce 3e chantier porte pour la situation française sur les impacts socio-économiques. Avant les questions, Estelle, alors là, avec votre casquette d'élu, donc comment faire pour bien communiquer avec les élus et se montrer efficace en matière de plaidoyer des bibliothèques ?
Je vais vous emmener dans la tête des élus. C'est intéressant volontiers. Tout ce que vous dites parce qu'en fait, ça soulève la question des perceptions. Et donc, ce que je vais vous dire, je le mesure pas uniquement à l'aune de mon expérience bordelaise, mais c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, et donc au-delà de mon activité d'élu où je rencontre des collègues, je travaille aussi avec des collègues élus que je forme dans leur communication. Et là, singulièrement, en ce moment, on est en période pré-municipale, donc on travaille sur les projets. Et on travaille aussi sur les bilans des maires sortants. Donc, je travaille aussi bien avec des élus qui viennent de grandes collectivités, donc plutôt des municipalités, mais comparables à Bordeaux. Et puis aussi des maires qui sont des maires périurbains, périruraux et des maires vraiment de la ruralité. Donc, ça permet d'avoir quand même une entrée qui, sans faire de généralité, permet d'avoir quand même un prisme assez large. Et les élus ont plein de représentations. Ils ont plein de représentations. Et en plus, le fait d'être élu vous donne encore des représentations supplémentaires auxquelles vous n'auriez pas pensé. Alors, j'explique tout ça. Avant d'être élu, moi, je suis bordelaise. Je vais à la bibliothèque. D'abord, j'y allais quand j'étais étudiante pour travailler. Et puis ensuite, j'y suis allée aussi parce que j'aimais ça et j'empruntais des livres. Et maintenant, j'y vais avec mes enfants et j'accompagne même les sorties scolaires. Donc, je suis usagère de la bibliothèque et j'appelle une bibliothèque une bibliothèque. Le jour où je rencontre Alain Juppé, quand il me fait rentrer sur sa liste, on discute un peu de ce que j'aime. Donc moi, je lui raconte, je suis mariée avec un journaliste littéraire, je viens du monde du livre, je fais des modérations de débats déjà depuis 10 ans à l'époque. Donc vraiment, je suis très inscrite dans ce monde-là. Et puis pendant 10 minutes, il me parle de lecture publique. Et pendant 10 minutes, je me dis, mais c'est quoi la lecture publique? Je ne sais pas ce qu'est la lecture publique. Moi, je viens de la société civile et je n'ai pas ce vocabulaire-là. Pour plein de mes collègues, quand on arrive, quand on est élu, quand on rentre en politique, on doit aussi passer et faire la bascule entre citoyens, même si on a un engagement politique, et rentrer dans une collectivité. Et vous allez voir que ça a son impact parce que ce n'est pas seulement une question de mots. On sait que les mots vont définir aussi notre culture et vont définir notre façon de percevoir le monde. Donc, c'est important de savoir tout ça pour savoir comment parler aussi à vos élus qui arrivent avec des représentations individuelles. Et quand on est élu, d'un seul coup, on perd cette question de l'usage et nous, on est élu sur un projet, sur une vision pour un territoire. C'est comme ça que ça fonctionne, une élection. Et d'un seul coup, dans les premiers jours du mandat, un élu, on lui dit en substance, tu coupes avec toutes tes propres pratiques et maintenant tu vas te mettre dans les pratiques de la collectivité et de l'administration. Et quelque chose que j'ai trouvé assez révélateur, première réunion sur les bibliothèques, avec les affaires culturelles, la première chose dont on m'a parlé, c'est du budget des bibliothèques. Alors c'est important de savoir comment ça fonctionne, savoir comment est financée la bibliothèque, savoir quelles sont les grandes masses, pour avoir aussi conscience ensuite de la façon dont vous travaillez et des problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés. Mais moi, j'arrivais de mon propre vécu. Pour moi, la bibliothèque, c'était pas ça. C'était des représentations qui étaient entre le lieu où on travaillait, parce que je l'avais quand même pratiqué étudiante. Mais je voyais aussi qu'il se passait d'autres choses dans les bibliothèques. Il y avait des ateliers, enfin, qu'il y avait des concerts, qu'il y avait des animations. Avec mes enfants, je fais autre chose aujourd'hui encore. Mais être élu, c'est ça aussi. C'est d'un seul coup, on ne vous parle plus que de chiffres. Et c'est un truc qui est assez dramatique. Moi, je travaille beaucoup, justement, avec les élus que j'accompagne là-dessus. C'est que notre rôle, c'est pas celui de l'administration. Chacun a son métier. C'est extrêmement utile d'avoir des directions, direction des bibliothèques, direction administrative, qui sont capables de faire fonctionner. Mais un élu, il est élu aussi pour donner le cap. C'est un peu le capitaine et le navire. On est censé, c'est ce que nous demande l'exercice démocratique, de donner la direction et de savoir lire les étoiles et de dire... On va vers là. C'est pour ça que entre une politique de lecture publique dans une ville comme Bordeaux et dans une ville comme Béziers, il y a une singulière différence. Derrière, il y a un projet politique. Je prends volontairement des exemples un peu lourds, mais parce que c'est ça aussi qui joue. Alors souvent, ça joue dans la nuance, parce que la plupart des maires de France et la plupart des présidents de collectivités, et notamment départementales, ont quand même une acception de la lecture, qui est une vision républicaine des choses et sont conscients de l'utilité, mais il faut avoir conscience de ça aussi. C'est que nous, on nous demande d'abord, avant d'avoir, une fois qu'on est élu, avant d'avoir une vision, C'est de savoir comprendre comment ça fonctionne. Et il y a un effet complètement délétère, c'est-à-dire que nous, on arrivait avec plein d'envie, plein d'idées, de curiosité aussi pour savoir, et on nous demande de maîtriser des connaissances qui ne sont pas forcément dans nos champs de compétences. Moi, j'arrivais du livre, quand on m'a donné le premier budget, et en plus, quand on m'a parlé en acronyme, ça, c'est un exemple que je cite souvent avec des élus, je vous le dis parce que ça m'a... Donc, Alain Juppé me parle de lecture publique, et l'adjoint à la culture, la deuxième semaine de mon mandat, il me dit... ça serait bien que tu aies un rendez-vous avec la DGAC pour qu'on te briefe sur le CEPOM qu'on a passé avec la CAQB, parce que c'est bien que les CM s'expriment en conseil municipal. D'accord. Et après, il me parle de M14. Ah ouais, touché coulé, j'ai touché ton porte-avions. En fait, globalement, il me disait de prendre rendez-vous avec les affaires culturelles pour qu'on m'explique quel était le contrat d'objectifs et de moyens qu'on venait de passer avec l'association des centres d'animation et de quartier pour que je puisse en parler en conseil municipal en tant que conseiller municipal délégué. C'était pas très compliqué, mais d'abord, un élu, c'est quelqu'un qui arrive avec son propre vécu et à qui on demande de devenir un technicien. Et c'est un effet extrêmement délétère. Et c'est pour ça, et là je vais rentrer dans peut-être des conseils plus pratiques, comment parler à un élu, essayez de connaître vos élus. Essayez de comprendre en les écoutant, en les rencontrant. Il y a quand même une relation qui est essentielle, c'est de leur parler. Mais aussi en allant voir les moments où ils s'expriment, en allant, si vous êtes dans une ville où le conseil municipal est diffusé sur Internet, en allant écouter, de comprendre aussi, chez les élus avec lesquels vous êtes en lien, ce qui est important pour eux. Parce qu'en fait, dans la communication, il y a trois champs d'expression et on est plus ou moins sensible à un des champs. Donc en fait, globalement, vous avez le champ des valeurs. Et moi, si vous m'écoutez, vous voyez que le champ des valeurs, chez moi, il est extrêmement important. Il y a le champ des actions et des objectifs. Donc là, on est dans un champ beaucoup plus rationnel. Moi, si Nicolas Gallo me parle tout de suite de budget, je vais un peu bloquer. Alors, quand Julielle me parle de valeurs, je capte tout de suite. Mais Nicolas Gallo me parlait de valeurs. Et après, vous avez... et alors ça, c'est un levier qui peut fonctionner très bien quand on le maîtrise. C'est les histoires qu'on raconte. Globalement, c'est le storytelling ou communication narrative. Mais c'est quand vous arrivez à projeter votre interlocuteur dans une image qu'il va pouvoir comprendre et associer à son propre référentiel culturel. Vous avez des élus, si vous ne leur parlez que de chiffres, que de RIFSEP, que d'organisations sociétales, typiquement, c'est l'adjoint en finance. Vous êtes dans son champ d'acception et vous allez lui parler. Derrière, vous allez pouvoir le convaincre en passant d'abord par ça et peut-être en l'emmenant un peu plus loin, en allant utiliser la valeur, en allant utiliser ces images. L'image, c'est par exemple, imaginez la classe qui vient, ce sont des enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller à la bibliothèque, ça leur permet de pouvoir avoir un accès aux livres, et vous voyez ces enfants. Alors, une image que j'utilise moi beaucoup avec mes collègues pour leur parler des bibliopoints. Donc, ce sont les bibliothèques éphémères de l'été, le bibliosport, qui est au Parc des Sports Saint-Michel, qui est un quartier vigilance, qui est plus politique de la ville met en vigilance, et au biblioplage, là aussi, la quartier politique de la ville, je leur dis, on a des enfants qui arrivent de ces quartiers, ils y vont surtout parce qu'il y a des jeux vidéo, et parce qu'il y a un goûter, et c'est des enfants qu'on retrouve à côté des bacs, et qui, en fait, sont dans le livre, et qui ne lèvent plus le nez, même quand il y a le goûter, parce qu'ils sont dedans et ils lisent des BD. Ça parle à mes collègues. Mais c'est une image qu'a utilisée une bibliothécaire pour m'expliquer la première fois pourquoi c'était important, les bibliopoints et les bibliothèques éphémères. Donc, essayez de comprendre quel est le champ de communication principal. Et ensuite, il faut passer... Moi, je peux pas... quand j'ai été élue à la lecture publique, évidemment, il fallait que je comprenne la question du budget. Quand on a parlé du RIFSEP et de l'ouverture du dimanche, il fallait que je puisse avoir aussi ce champ de connaissances-là. Mais c'est pas celui qui m'a motivée. Chez les élus... qui a été aussi pour certains très motivant, c'est de se dire la bibliothèque ouverte le dimanche, c'est une alternative au commerce. Pour d'autres, la bibliothèque ouverte le dimanche, c'est du service public. C'est la présence d'un service public. En fait, on parle toujours de la même chose, mais le levier de motivation est un peu différent. Donc c'est ça qui est essentiel. Mais vous verrez, c'est aussi... faites le test avec vos proches, avec les gens autour de vous. Vous voyez que même si certains ont plusieurs enfants, on n'utilise pas toujours la même façon de s'exprimer parce qu'on sent de façon instinctive que les leviers de motivation ne sont pas les mêmes. Moi, ma petite qui a 5 ans, Si je lui fais une petite blague et que je lui dis « Allez, j'aurai lavé mes dents avant toi », elle va aller se laver les dents. Si je dis ça à mon fils qui a 8 ans, qui est un petit garçon très intello, comme ça, on l'appelle Sacha Pédia, si je lui dis « Allez, on fait la course », il me dit « Non, tu me mets la pression ». Ils n'ont pas les mêmes leviers de motivation. Quand on s'engueule avec son conjoint, on comprend aussi des fois qu'on n'a pas les mêmes leviers de motivation parce qu'on n'a pas forcément la même vision. Ben avec un élu, c'est pareil. Il faut comprendre en fait quel est le bon point d'entrée. Et à partir de là, vous allez effectivement pouvoir construire un argumentaire. Et posez-vous toujours la question, comment l'élu va percevoir ce que ça lui apporte ? On a tous un rapport plus ou moins intéressé au monde. On n'est jamais totalement désintéressé. Il faudra que l'élu se dise, tiens, sur une initiative, sur une construction de bibliothèque, sur l'organisation d'un événement, qu'est-ce que moi, je peux en ressortir ? Parce que derrière, et on l'a évoqué avec les réseaux sociaux, c'est comment il va pouvoir lui en parler ? Comment il va se sentir valorisé ? Donc, comment il va vous valoriser ? Et ça, c'est le deuxième élément. C'est quelles sont les actions, quels sont les modes de communication qui vont permettre justement de créer un effet d'entraînement et de faire qu'on aura envie d'en parler. Les goodies, les événements, bien sûr, ça fait partie des choses importantes. De donner à voir, c'est essentiel. Et vos élus, il ne faut pas hésiter à les inviter et à leur montrer. Et pas seulement pour faire une visite de chantier. Il faut les inviter à voir aussi ce qui se passe. Alors, ça peut être des gros événements. La Nuit des bibliothèques, ici, dans la métropole de Bordeaux, permet justement aussi de faire venir, alors non seulement les usagers des bibliothèques, des non-usagers, parce qu'il se passe quand même quelque chose qui crée de l'animation, qui crée du lien, qui crée... Je prends deux exemples dans deux bibliothèques de Bordeaux. Bibliothèque de Bacalan, une des plus anciennes, qui est dans un quartier aussi très social, avec des bibliothécaires qui sont aussi très investis dans la vie associative. Quand il y a la grande paella devant la bibliothèque de Bacalan, quand il y a la nuit des bibliothèques, bah, il y a plein de monde qui vient parce qu'il y a ce moment qui est un moment de vie de quartier, qui n'est pas seulement un moment de la bibliothèque, mais un moment de vie de quartier. Là, les élus, on adore y aller. On adore les moments de vie de quartier, le lien, vous savez, avec notre territoire, l'oreille collée. À la bibliothèque Pierre Véité, qui est la dernière bibliothèque de la bibliothèque de Bordeaux qui a été livrée. C'est un quartier cohérent, qui est un quartier avec assez peu de vie de quartier. C'est un quartier où il y avait traditionnellement, maintenant ça change un peu en termes de sociologie, mais beaucoup de personnes âgées. Le réseau de transport n'est pas le meilleur de toute la métropole ni de toute la ville. Et ben là, la nuit des bibliothèques, alors qu'il y a de plus en plus d'enfants en plus dans ce quartier, ça a été un moment super parce que là, il y avait une vraie animation dans ce quartier où il y en a très très peu. Et le fait, par exemple, qu'il y ait des batailles de sabre laser, on parlait plus tout à fait d'une bibliothèque, mais d'un lieu où on allait vivre, où il se passait des choses. Et il se passait même des choses qui étaient étonnantes, qui étaient interpellantes. Et pour que les élus comprennent aussi comment ça fonctionne la bibliothèque, mais il faut qu'ils viennent voir. Il ne faut pas seulement servir de prétexte technique pour les faire venir, mais saisissez-vous de tout ce qui peut être soit un événement, petit ou grand. Vous êtes par exemple en partenariat avec un prix littéraire ou avec un événement du livre sur votre territoire, mais profitez de ça pour le faire venir. Vous avez un auteur qui vient, vous avez un concert, passez l'invitation. Au bout d'un moment, de toute façon, les élus ont fini par venir parce qu'on se dit « oui, c'est très important d'y aller, il faut mailler le territoire ». Mais voilà. Les motivations de l'élu, c'est ça aussi. À un moment donné, surtout en période préélectorale, on a besoin d'être vu, de montrer qu'on travaille, qu'on est en lien, qu'on connaît bien son territoire. C'est pas cynique ce que je dis, mais il faut comprendre ça pour aussi comprendre comment vous allez déclencher l'envie de connaître, d'aimer et de comprendre surtout la bibliothèque. En fait, l'enjeu de tout ça, c'est comprendre.
Message reçu 5 sur 5. Merci beaucoup, Estelle. Je crois que c'était... très efficace, très intéressant. On va peut-être, on a un petit peu de temps, prendre, nous sommes dans les temps même, on peut le dire. Merci d'ailleurs à toutes les trois, franchement. Prendre des questions si vous avez des témoignages à apporter, des précisions à demander ou tout simplement des questions à poser à nos intervenantes, c'est le moment, profitez-en.
Merci. Bonjour. Alors, merci pour vos interventions. Et moi, j'ai une question vraiment plus de curiosité à destination de Julie. Quand vous dites qu'il y a des pays qui sont vraiment dans l'urgence par rapport à la lecture publique, du coup, est-ce que vous pourriez nous dire lesquels et pourquoi, si vous avez un peu des pistes? Et après, à contrario, s'il y a des pays qui sont particulièrement bien dotés en matière de lecture publique ou des pays qui sont justement en train de prendre conscience que les bibliothèques sont un levier intéressant pour le citoyen.
Oui. Donc, les pays qui sont un petit peu aujourd'hui, qui attestent un certain nombre de difficultés, ça va être par exemple la Bulgarie, la Serbie aussi. Voilà, c'est ces pays de cette zone-là ont du mal à la Roumanie aussi, bien que ça, il semblerait que ça remonte un peu la pente. Ils ont du mal à sanctuariser dans le budget, dans les budgets publics qui sont soit centralisés, soit décentralisés, hein, ça dépend des organisations politiques, de sanctuariser un budget pour les bibliothèques qui sont parfois, en Bulgarie par exemple, le maillage du territoire, c'est essentiellement des bibliothèques dans les écoles financées à minima par des associations, avec un très faible accès aux livres en fait. Je parle du coup même pas des autres types de médias culturels. Hein. Là, on en est là. Ça pose naturellement des questions d'accès au savoir, qui là, du coup, et c'est normal au stade auquel ils en sont, sont couplés avec les problématiques d'éducation. Bon. Enfin, là, on en est là. On n'est pas encore tout à fait au troisième lieu, loin s'en faut. Et voilà, j'ai tout un tas de choses à construire avant d'y parvenir. Alors... si on devait donner un exemple qui nous fait pâlir d'envie, je citerais le Danemark, peut-être, parce qu'au Danemark, il y a beaucoup de bibliothèques dont l'entrée est gratuite aussi. Parce qu'on aime bien citer la Hollande parce qu'ils ont des jolis équipements, mais il faut quand même se rappeler que l'adhésion, même si ce n'est pas très joli comme mot, je rejoins Dominique, est souvent... au-delà de 30 euros, voire à 50 euros, hein, à Amsterdam, à l'Openbare, à la bibliothèque ou à la De Chocolat de Fabrique de Rauda aussi, c'est 50 euros. Bon, voilà, c'est pas négligeable. Et donc, c'est des services qui sont moins onéreux que ce que ça ne coûterait, bien sûr. Hein, voilà. Mais au Danemark, c'est gratuit. Ils ont, par exemple, au DOC 1 de Aarhus, l'une des dernières nées du Danemark qui a fait grand bruit, qui avait reçu le prix Livre Hebdo des bibliothèques. Non, ce... IFLA, oui, le prix IFLA, pardon, bien sûr, le prix IFLA, évidemment. 50% de taux de pénétration. Donc, oui. Oui, et puis plusieurs services, et en plus il y a des services adossés municipaux, hein, il y a le service de l'état civil, des cantines, des trucs de permis, et d'autres amendes. Oui, après c'est des établissements qui sont rudement bien pensés, mais ça reste des dépenses. Je veux dire, là, il y a un engagement politique qui est incroyable. D'ailleurs, le directeur, l'adjoint à la culture de Aarhus fait partie du bureau des Blida avec nous. Donc il y a un vrai engagement pour les bibliothèques. Enfin, ils sont très vraiment actifs là-dedans. Et le bâtiment dont je parle, du DOC 1, est incroyable. C'est vraiment un bâtiment somptueux. Ça veut dire que ça signifie vraiment... Le fait que la ville, et c'est assez vrai dans beaucoup d'autres collectivités Danemark, va s'engager pour les bibliothèques. Quoi.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? C'est intéressant la question que vous posez parce que ça met des points de vigilance pour nous élus et pour vos bibliothécaires. Ça ne vient pas des métropoles, ça vient des grandes villes où là, la bibliothèque, ça reste un élément, un des établissements qui sont importants, qui se voient, où les élus... sont sensibles aussi à l'espèce de retour sur investissement intellectuel. C'est quand même, ça permet de valoriser. Je travaille avec des maires de communes rurales où dans les intercos, il y a eu des bibliothèques, mais il y a encore pas mal de communes qui ont leurs bibliothèques, qui sont souvent des petites bibliothèques. Et la bibliothèque, elle est perçue quand même comme un bâtiment à entretenir, des gens à payer. Et finalement, une fréquentation qui n'est pas toujours extrêmement importante. Et c'est ce qui m'a interpellée, c'est dans le discours d'un élu avec laquelle, d'une élue avec laquelle je travaille, parce que la marotte, c'est on avait sa bibliothèque, on a construit son city-stade et maintenant on fait des skateparks.
Pardon, là aussi, c'est pas du cynisme, hein, c'est un vrai constat. Un skatepark ou un city stade, c'est vachement moins cher à entretenir. Et donc, il y a cette espèce de d'idée quand même que c'est cher. C'est cher et que le retour pour la population, on voit, c'est très symptomatique, quoi. On voit s'il y a les enfants qui y vont, s'il y a les gens qui la fréquentent, et on voit s'il y a des gens à l'intérieur. Donc, il faut aussi réinvestir, et surtout dans les petite collectivité, mais il faut le faire aussi avec les grandes collectivités. L'idée que la bibliothèque, c'est pas qu'un lieu, et c'est pas que du matériel, et c'est pas que de la RH, c'est aussi derrière le lien. Enfin, ça, c'est ce qu'on s'est dit là tout au long des choses. Mais à mon avis, sur notamment les territoires ruraux, on a une vigilance à avoir sur la durée, parce que quand je suis élue numérique, on me dit, mais de toute façon, c'est facile, on a Google, on a Facebook. Voilà, non, on a aussi des bibliothèques et on a aussi du lien humain. Mais c'est une idée qui est extrêmement pernicieuse et il faut se garder qu'elle ne devienne pas plus importante que pernicieuse.
Merci, c'était bon à préciser. Oui.
Bonjour, tout d'abord une remarque. Je me suis toujours interrogée tout au long de ma carrière sur ce thème de lecture publique qui est quand même très peu attirant, très peu attractif. Pas du tout sexy, et franchement, je n'arrive pas à trouver autre chose pour qualifier le domaine, le champ d'intervention qui est le nôtre. Donc là, c'est plutôt une remarque personnelle. Je ne sais pas si d'autres collègues ont des idées qui seraient plus avancées sur le sujet. La deuxième question que je me pose, c'est quand même pourquoi, dès qu'on parle de culture auprès des élus, ça éveille principalement le spectacle vivant. Voilà. Ça reste un mystère pour moi. Donc là aussi, peut-être des éléments de réponse à apporter, Estelle.
C'est une vraie question, parce que je suis convaincue que les élus, comme plein de gens, et notamment singulièrement comme plein de dirigeants aussi, ont un problème avec la lecture et un problème avec le livre. Lire, ça répond quand même à des représentations sociales qui sont des représentations d'élite. Et alors là, je vous livre encore une expérience personnelle. Moi, je suis dans la sociologie du conseil municipal. Je fais partie vraiment de la strate des plus populaires. Et je ne me considère pas comme faisant partie, socialement dans la ville de Bordeaux, des plus populaires. Quand j'ai commencé mon mandat, j'étais animatrice à France Bleu, donc j'étais salariée de Radio France. La plupart de mes collègues sont soit indépendants, soit ne travaillent pas parce qu'un conjoint qui a une très grosse situation. Mais le fait d'avoir ce rapport au livre, ça crée quand même un truc assez sexy. Il y a quand même une espèce de fascination autour du livre. Ah oui, puis ton mari, il signe dans Sud-Ouest. Il y a aussi, voilà, la signature dans Sud-Ouest, c'est... Toi, tu passes à la radio. Enfin, il y avait un truc comme ça autour de la représentation. Je suis tombée sur France Culture, sur un podcast qui est toujours en ligne, que je vous invite à écouter. Alors je me souviens plus du nom du sociologue et de la philosophe qui intervenait, mais qui expliquait aujourd'hui comment en fait il était devenu courant et très sexy pour les dirigeants de dire que la culture, ils avaient pas le temps parce qu'ils étaient dans le faire, alors que la culture, c'est pas du faire. Et ils vivent la culture comme une sorte de représentation sociale, ou encore, ou au mieux, au pire, comme une perte de temps. On n'a pas besoin de se cultiver parce qu'on rend service, nous, on crée de la valeur. On crée de la valeur, on produit, on crée des emplois. Donc, je pense, pour répondre à votre question, que pour les élus, assister à un spectacle vivant, singulièrement s'il est dans l'espace public, ça permet de cacher une peur enfouie, d'être celui qui ne lit pas ou qui ne comprend pas. Alors après, je pense qu'on peut même remonter dans notre propre éducation au livre, hein. Quand on vous fait lire Lorenzaccio en seconde et qu'on vous projette la pièce de théâtre avec Francis Huster, ou quand on oblige un lycéen à lire Malraux, avec la grande admiration que j'ai pour Malraux. Mais Malraux, ça se lit mieux à 30 ou 40 ans qu'à 16. Et les sonnets et Ronsard et Rabelais, bah, c'est plus facile à comprendre quand on est plus âgé, mais il y a une espèce d'imposition de ce que doivent être les canons culturels, qui fait qu'effectivement, quand on devient élu, alors il y a ceux qui ont envie d'être élus à la culture, qui ont ce prisme-là, mais tous ne sont pas, dans cette toute petite partie qui aime la culture, ne sont pas non plus forcément tournés vers le livre. Et donc, pour la plupart des élus, bah, lire, avoir un rapport à la lecture, donc à ce savoir-là, bah, c'est considéré comme quelque chose de pas de mauvais, mais je pense que ça éveille plein de peurs de représentation sociale. Donc c'est compliqué parce que c'est les élus, mais c'est aussi, je pense, une représentation sociale qui est bien plus large que celle des élus.
Ce que je peux ajouter sur la représentation des élus, justement, c'est amusant quand on est arrivé à Honfleur l'année dernière. Alors, je me souviens plus, c'était le maire adjointe à la culture, certainement, qui nous dit « Ah, des intellectuels à vélo ». Voilà, c'est l'image. Nous sommes des intellectuels à vélo. Et ça nous rend quand même un peu plus humains de monter sur des vélos. Voilà, donc c'est amusant. Bon, on essaye de déconstruire cette image, mais elle nous colle quand même bien à la peau. Et c'est pas simple, mais voilà, c'était assez drôle, cette réflexion.
On va prendre alors deux dernières questions, mais très rapides.
Alors, c'est pas une question, c'est juste un témoignage. Donc, moi, je suis pas du tout bibliothécaire, je suis directrice des affaires culturelles. Donc, j'ai apporté ce rapport à l'élu sur la métropole ici. Ce que j'observe, moi, c'est un rapport assez schizophrène, finalement, des élus à la bibliothèque par rapport à d'autres domaines culturels, qui est à la fois, finalement, des établissements et une politique publique en soi qui a une ancienneté. On a parlé de l'auto légitimation tout à l'heure, enfin une ancienneté même au niveau national, et le territoire en est maillé, donc c'est bien un exemple. Donc finalement, quelque chose qui fait partie du paysage et qui potentiellement n'amène plus grand-chose. Je vais être un peu radicale là-dessus.
Non, mais vous avez raison d'être radicale, c'est juste.
Et en même temps, une attente extrême de la part des élus sur le rôle des bibliothèques, et ça va être un des sujets, je pense, dans l'après-midi, d'une réponse au tout et à tout, en permanence, ce qui nous, d'un point de vue technique et en termes d'accompagnement politique, nous rend la tâche extrêmement difficile, puisqu'on doit défendre à la fois les fondamentaux du rôle des bibliothèques, tel qu'on l'a partagé ce matin, et en même temps être à l'écoute de ce qu'ils veulent d'une réponse sociétale à tout, dans le positif comme dans les difficultés des territoires, ce qui finalement donne un enjeu pour les bibliothèques aujourd'hui, on ne peut plus présent, et je pense même encore plus que d'autres secteurs d'activité culturelle, sur une commune, en l'occurrence, voilà, sur l'expérience que j'en ai.
Merci beaucoup. Du coup, je vous laisse le micro.
Merci. Bonjour, Jean Britier, je suis directeur de la médiathèque départementale de l'Hérault. Je précise parce que du coup, mon prisme, c'est celui du département. Donc, c'est plutôt pour compléter, parce qu'en fait, dans le département, il y a un centre de formation des élus. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les élus d'une grande ville comme Bordeaux, j'ai eu l'occasion de me rapprocher de ce centre et d'intervenir à l'occasion de 3 sessions pour présenter les bibliothèques et le rôle qu'elles peuvent jouer aujourd'hui. Et j'ai pu toucher 60 d'élus locaux, hein, mais qui étaient extrêmement satisfaits. On va rempiler à la prochaine, après les élections, avec les nouveaux élus, de découvrir justement ce qu'elles pouvaient faire, de changer leur présentation. Mais on a là une occasion en or, en fait, de les toucher. Donc c'est cette question de la formation des élus qui n'a pas été abordé jusqu'ici, mais qui est, à mon sens, un point d'entrée très fort pour faire du plaidoyer, de l'advocacy.
Je me permets de répondre parce que, pour le coup, j'ai l'agrément du ministère de l'Intérieur pour la formation des élus, donc c'est un secteur que je connais bien. Et vous avez raison, parce que c'est tellement évident que je n'y ai pas pensé. Et c'est un vrai enjeu, la formation des élus aussi. Aujourd'hui, en fait, je vous explique très rapidement. En fait, quand on est élu, on a le droit à des heures de DIF, donc comme un compte personnel de formation, donc de droit individuel à la formation, de 20 heures par an. Et donc, à la fin du mandat, là, on aura, parce que c'est une mesure qui est rentrée en vigueur en 2016, qui a été réformée. Donc, globalement, pour schématiser, on aura 80 heures de DIF pour ceux qui les auront pas utilisées au mois de janvier. Moi, j'ai longuement discuté avec la Caisse des dépôts et consignations, donc qui gère le DIF des élus. En fait, le DIF des élus en France est utilisé à moins de 7%. Les élus ne se forment pas. Alors que les procédures sont assez simples, qu'il y a des organismes de formation dans quasiment tous les départements, mais c'est pas rentré dans la tête des élus. Et quand on se forme, la formation... à votre avis, la formation qui est le plus demandée par les élus, mais alors qui explose tous les scores? Les finances. Alors, ça commence la sécurité. Ça commence la sécurité, mais les finances, c'est la formation la plus plébiscitée. Et après, effectivement, il faut faire... soit, effectivement, il y a les associations de maires qui sont assez proactives pour proposer des thématiques, mais la plupart du temps, en fait, c'est l'élu qui choisit s'il a envie de choisir un thème particulier ou parce que ça correspond à son besoin particulier. Mais c'est très juste. Je devrais mettre plus de bibliothèques au menu de mes formations. Merci.
Merci. Bon, merci beaucoup à toutes les trois, franchement, de vous être prêtées à l'exercice aussi, de façon aussi dynamique. Et merci à la salle pour ces questions. Je pense que ça pourrait se prolonger encore, mais...
Est-ce que je peux rajouter un dernier petit mot, Christophe ? Mais tout petit, parce que vous citiez Sylvain Prudhomme tout à l'heure, et je suis en train de lire son livre aussi, j'adore ce garçon. Pour les Bordelais, il sera mardi soir chez Mola à 18h. Voilà.